RCF. Le début de l'année 2024 a été marqué par l'arrivée d'un nouvel évêque pour le diocèse de Valence, Monseigneur François Durand, enfant du pays de Langogne. Vous êtes notre invité sur RCF aujourd'hui, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté de venir dans cette émission se prêter à l'exercice du chemin de foi, du portrait. On va parler un peu de vous et essayer de mieux vous connaître.
Avec joie, merci.
Une page une qui s'ouvre le 14 novembre 1973, je crois.
C'est cela, oui, c'est ma date de naissance.
Est-ce que vous pourriez nous donner un petit cours de géo pour commencer et nous présenter un peu la Lozère ?
La Lozère, donc, c'est un département rural qui est dans le Massif central. C'est le plus haut département de France en altitude moyenne, 1000 mètres d'altitude. Très peu peuplé, le moins peuplé de France. Et il est situé donc à l'ouest de l'Ardèche et au sud de la Haute-Loire.
Votre Lozère, celle que vous apportez ici dans la Drôme, elle serait comment ?
Alors la Lozère, c'est un territoire évidemment auquel je suis très attaché, avec une grande simplicité et puis des personnes qui sont attachées au travail bien fait, à une qualité de vie. Tout le monde se connaît, c'est une sorte de grande famille. Il faut d'une certaine manière se faire accepter. Alors quand on est natif du lieu, évidemment ça va tout seul. Mais il y a d'abord tout une prise de contact. Mais une fois qu'on est accueilli, après c'est vraiment des liens très forts qui restent pour toujours.
Oui. Il faut combien de temps pour se faire accepter à peu près
Une semaine. Quelqu'un qui veut vraiment faire des connaissances et puis s'intégrer, ça va assez vite après. Les relations sont simples.
Alors le contexte familial en novembre 73, comment ça se passe ? Il y a des frères, des sœurs ?
Alors je suis l'aîné, j'ai deux sœurs et un frère. Voilà, mes parents, mon papa est de la Lozère, originaire de Langogne, plus précisément d'un tout petit hameau à côté de Langogne qui aujourd'hui est sous l'eau puisqu'il y a un barrage qui a été construit. Voilà, et ma maman est du Gard à Uzès.
Comment vous décririez le contexte familial ?
Alors une famille soudée, ma maman a fait le choix d'être mère au foyer, mes parents étaient profs tous les deux, mon papa prof de maths physique et ma mère prof d'histoire, avec des racines, des origines aussi très simples, mes grands-parents paternels étaient petits paysans avec quelques vaches, et du côté de ma mère, mon grand-père était militaire, et puis ma grand-mère avait été couturière, voilà. Donc un milieu familial modeste, et puis uni, simple, avec le souci de garder cette simplicité de vie, c'est-à-dire un contact avec des personnes très simples. Donc à la maison, passaient des gens qui venaient faire leurs papiers, des familles maghrébines, des familles portugaises, des jeunes qui étaient à la DAS et qui venaient faire quelques jours à la maison, une semaine ou deux. J'ai été marqué par le fait que mes parents vivent leur foi de manière concrète dans les choix de leur quotidien, à la fois par l'accueil de personnes très simples et en veillant à ce que leur intérieur, la maison et la vie de famille soient toujours accueillantes, aussi en gardant une honnêteté, une rectitude de vie et puis en participant à la vie de la paroisse en toute simplicité, en s'engageant pour que l'Église vive à Langogne.
Ça veut dire que la famille est catholique dès le début pour
oui,
vous,
oui,
c'est
oui.
Ça
mes parents sont catholiques, voilà. Je suis vraiment tombé dedans tout de suite
petit.
Quand j'étais petit. Et oui, pour moi, j'ai toujours été chrétien. L'Église catholique, c'est aussi ma famille, ça c'est sûr. Je suis d'aussi loin que je me souvienne, je suis toujours allé à la messe le dimanche. Même au moment de l'adolescence où forcément on réagit un petit peu par rapport à ses parents et on veut prendre du recul, mais des fois j'y allais à d'autres horaires ou le samedi soir pour pas y aller avec mes parents, mais enfin j'allais quand même à la messe tous les dimanches. Et comme j'ai dit, c'est surtout la cohérence qui a été un vrai témoignage pour moi, le fait d'apprendre à prier. Alors là c'est ma maman qui a joué un rôle important et j'ai des souvenirs anciens où je me vois moi-même prier tout seul, mais déjà tout petit, quoi.
Vous disiez donc que vous étiez avec vos parents, petits, recevez parfois des gens qui avaient des problèmes pour faire les papiers ou des enfants qui venaient de la DAS. Donc ça veut dire que vous pouviez temps en temps côtoyé des enfants de votre âge qui n'avaient pas le contexte familial que vous aviez à ce moment-là. Mm-hmm. Si on repense un peu à cette époque-là, est-ce que vous viviez ça bien ou vous trouviez ça un peu dérangeant d'avoir des jeunes de votre âge qui viennent aussi un peu dans votre maison, quoi.
Très bonne question. Ben, j'étais dérangé, plutôt dérangé, des moments un peu jaloux, un peu même en réaction par rapport à cet accueil. Donc c'est vrai que étant enfant, je n'ai pas toujours tout compris. Bon, il y avait des moments plus heureux, d'autres plus difficiles. C'est après coup, en mûrissant, en grandissant, que j'ai fait le lien entre tout ce qu'on recevait, tout ce qu'on entendait, l'évangile, tout ce qu'on vivait à l'église, et puis le choix de mes parents, ce choix d'ouverture, ce choix aussi d'accueil et puis d'attention aux personnes qui étaient plus en difficulté, parce qu'on est chrétien et voilà, on le fait simplement. Enfin, ça se discute pas, c'est comme ça. Quelqu'un a besoin, on lui rend service.
La date de votre baptême aussi peut-être est un signe.
Oui, j'ai été baptisé le jour de Noël. Il faut savoir que bien sûr, c'est possible d'être baptisé le jour des grandes fêtes liturgiques, hein, à Toussaint, à Noël, à Pâques évidemment, par excellence. Donc, j'ai été baptisé le jour de Noël 1973, il y a 50 ans.
Vous aviez un mois et quelques jours.
Oui, c'est ça, un mois et dix jours.
Les études ensuite, comment ça se passe? Vous êtes plutôt bon élève, plutôt dissipé, plutôt distrait?
Très bon élève. C'est vrai. Voilà, je ne peux pas dire le contraire.
Ben, si c'est vrai, c'est vrai.
Oui, très bon élève, voilà. Non, j'étais plutôt calme à l'école. Je me défoulais à la maison. Même si on avait créé une petite révolte quand j'étais en CM2, on trouvait qu'on travaillait trop et voilà, on avait organisé, enfin j'avais organisé avec quelques autres
une petite
manifestation. Et bon, ça a duré 10 minutes. Mais...
Ah, et alors, ça a été entendu?
Non. Puis j'ai aimé apprendre. J'ai toujours aimé apprendre. J'aimais beaucoup le français. Bon, j'avais dit pourquoi pas faire lettres. Et les profs ont dit, oh, bah, quand même, avec tes résultats, vaut mieux que tu fasses quand même la filière scientifique, tu pourras toujours tout choisir. Bon,
voilà. C'était un littéraire contrarié.
C'est ça, exactement. Donc, plutôt littéraire, mais après, bah, j'ai fait des séries S.
À l'époque, c'était C ou D, c'est ça?
Voilà, il y avait la première S, puis après le bac, je fais le bac C.
Bac C. Donc scientifique pur, maths.
Maths physique.
Parce que je crois que dès il y avait de la biologie dedans.
C'est ça,
en plus,
dès il y avait davantage de biologie.
On est à peu près de la même génération, je vois.
On parle d'un temps qui est révolu. Donc ensuite, j'ai fait des études, une école d'ingénieurs à Lyon, sur le campus de la Doye, l'Institut national des sciences appliquées. Et je me suis spécialisé dans la physique des matériaux, et en particulier des matériaux semi-conducteurs, dont on parle de temps en temps, qui servent pour la microélectronique, notamment la fabrication des panneaux solaires, des microprocesseurs, des mémoires d'ordinateur, etc. Donc, où la matière ne réagit pas de la même manière que ce qu'on voit à l'échelle ordinaire, quoi.
Voilà. Vous devenez ingénieur?
Oui, tout à fait. Donc la dernière année de mes études, j'étais en Erasmus, comme pas mal d'étudiants. Et j'ai passé une année donc à Séville, c'était ma dernière année d'études, avec le projet de fin d'études. Pour moi, c'était important de découvrir aussi une autre culture, un autre pays.
Voilà. D'ailleurs, ça vous a marqué, puisque le premier chant que vous avez choisi, c'est un chant que vous avez rapporté de Séville, en fait.
Oui, alors là-bas, j'ai appris à danser la sévillane. Et ce qui me marque beaucoup, c'était ce mélange de la foi, et de la foi populaire, et puis en même temps, au milieu de la vie, avec beaucoup de joie, beaucoup de dynamisme, d'animation. Et c'est vrai qu'on pouvait parler avec des étudiants qui se disaient athées, mais dans leur portefeuille, ils avaient l'image de la Vierge. Enfin, voilà. Notamment la Vierge d'Al Rocío, c'est un pèlerinage au sud de l'Andalousie qui peut être fait notamment pour demander la pluie, et voilà, qui est très suivi.
Sevillanas Rocieres en honor a la Virgen del Rocío.
Eso es.
On écoute.
Señora, sigue llorando la gente y le reza ni le cuenta. témoin quand la foi se raconte.
Toujours dans notre émission sur RCF, en compagnie de Mgr François Durand, nouvel évêque du diocèse de Valence. Dans cette seconde partie, Mgr François Durand, on va parler plutôt de la foi. On a commencé à vous découvrir, votre parcours, très bon élève, ingénieur, spécialisé dans les nanomatériaux, semi-conducteurs, donc ce qu'on voit un peu dans les panneaux solaires. À quel moment vous vous dites, en fait, je vais pas être ingénieur?
Ça part de loin. En fait, j'avais 11 ans, vous voyez. C'était pas dans une église, c'était pas dans un moment très solennel, mais j'ai compris intérieurement, comme si tout d'un coup tout s'alignait, que j'étais profondément aimé de Dieu. C'était pas discutable, c'était net. Donc ma vie, ça doit être de l'aimer, et pour l'aimer, de le connaître, et pour le connaître, là j'ai commencé à essayer de prier un peu plus régulièrement, à lire aussi. Dans le Nouveau Testament, il y a un prêtre qui m'avait donné les Actes des Apôtres. Donc, en sixième, j'ai lu les Actes des Apôtres. Et puis, petit à petit, j'ai compris que pour connaître Dieu, il fallait aller vers les autres. Je me rappelle avoir écrit une lettre à l'évêque assez détaillée en disant cette nécessité d'aller vers les autres pour rencontrer Dieu. Et déjà, cette question d'être prêtre était venue dans mon esprit. Elle m'habitait. Mais bon, j'ai vécu la vie d'adolescent comme tous les adolescents de mon âge. J'ai continué. Alors, au niveau de l'église, j'allais à la messe, comme j'ai dit. Et puis, j'ai participé à des mouvements d'action catholique, qui étaient présents sur la paroisse à ce moment-là. L'action catholique des enfants, puis le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. On est allé faire un pèlerinage avec un jeune prêtre de la paroisse à Assise. Et alors, je m'appelle François et c'est en raison de Saint François d'Assise que mes parents m'ont donné ce prénom. Et ce pèlerinage m'a aussi beaucoup marqué. J'étais en terminale. Cette question d'être prêtre était revenue. J'avais perdu mes grands-parents. Tout ça m'avait pas mal brassé. Et puis, c'est le moment où il faut choisir ce qu'on va faire plus tard. Donc, c'était venu, mais je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas parce que en Lozère, tout le monde se connaît. Et donc, je savais bien qu'il y avait personne qui était au séminaire pour devenir prêtre pour la Lozère. Et je me disais, si jamais j'en parle, on va me mettre la main dessus, je n'aurai pas la liberté de pouvoir choisir, de pouvoir discerner.
Vous ressentez une pression, pas du tout ?
Non. Alors, c'est la grande sagesse de l'Église et c'est extrêmement important, le respect de la liberté des personnes, surtout par rapport à un choix de vie où on s'engage de manière définitive. Et entre le moment où j'ai parlé de ce projet à un prêtre et le moment où je suis devenu prêtre, il s'est écoulé 10 ans. Ni de ma famille ou mes parents ne m'ont ni poussé, ni empêché. Donc ça, c'est aussi un beau cadeau de leur part, de m'avoir laissé faire ce chemin bien, bien simplement, bien librement. C'est sûr que quand j'ai pu vraiment l'exprimer et commencer ce chemin, j'ai éprouvé une très grande joie. Enfin, vraiment, je comparerais ça à un moment quand on devient amoureux, quoi. Tout est possible. Voilà. Je me sentais prêt à aller au bout du monde. Voilà.
Vous êtes ordonné en 2002, je crois.
2002, le 30 juin 2002, par Mgr Robert Le Gall, qui avait été ordonné évêque le 6 janvier 2002. Donc j'ai été le premier prêtre qu'il a ordonné, oui. Puis il est devenu ensuite archevêque de Toulouse.
Donc ça fait 22 ans, en 2024, que vous êtes prêtre. Ce parcours de ces 22 années au service de la foi, vous l'avez vécu comment et auprès de qui ?
Alors d'abord, surtout auprès des jeunes, des adolescents, des collégiens et des lycéens. On rejoignait à ce moment-là, de manière régulière, dans différents groupes, 350 adolescents sur la ville de Mende, autour de Mende. Aujourd'hui, je réalise que c'est considérable. Pour moi, ça a été un moment béni, une pastorale très forte. Je pense à une équipe de 16 terminales qui vraiment se sont suivies jusqu'au bout et qui avaient voulu aller à Lourdes. J'ai vraiment eu l'impression comme s'ils m'avaient réordonné d'une certaine manière. Enfin, ils avaient fait de moi un prêtre. Puis ensuite, j'ai été aussi pas mal impliqué dans la formation des laïcs. Voilà. Et ensuite, j'ai été curé sur Saint-Chély d'Apché. C'est une paroisse au nord-ouest de la Lozère, traversée par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Est-ce que c'est différent quand on est curé dans une paroisse traversée par le chemin de Saint-Jacques ?
Alors, c'est un atout. C'est-à-dire, il y a toute une période du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre où sur plusieurs églises, plusieurs clochers, viennent tous ces marcheurs. C'est très riche, je trouve que ça donnait une vitalité, une ouverture aussi à la paroisse.
Ville étape Saint-Jacques, la ville de Valence vient juste de le devenir, je ne sais
D'accord.
pas si on vous l'a dit.
Eh non, voilà. Merci, c'est de l'information. Et j'ai repris les études pour faire un doctorat sur le mystère pascal, donc... Le titre, c'est le témoignage du ressuscité. Donc, à partir de comment le Christ ressuscité, le Christ vivant se donne, comment il parle aujourd'hui, comment il agit aujourd'hui. Donc, une véritable expérience de Pâques, mais que nous pouvons faire maintenant. Et donc, on m'a demandé d'enseigner à la Faculté de théologie de Lyon, notamment à l'IPER, à l'Institut pastoral d'études religieuses, la théologie pratique pastorale. Alors, j'ai enseigné simplement 2 années, parce qu'ensuite, j'ai été nommé vicaire général et j'avais plus la disponibilité pour être à la fois en Lozère, à la fois à Lyon.
Qu'est-ce que ça fait quand on vient de fêter son 50e anniversaire et que Monseigneur Celestino Migliore veut vous parler ?
Oui, ben j'ai bien fêté mes 50 ans avec ma famille, mes amis, et je regrette pas. Et c'est vrai que quelques semaines après, ben, je reçois ce message du nonce apostolique à Paris. Donc au début, ben, il y a un petit peu de crainte, on se dit, mais voilà, à quelle sauce je vais être mangé. Assez étonnamment, j'ai accueilli cet appel, hein, parce que c'est vraiment un appel du Seigneur et de l'Église, à devenir le pasteur de l'Église qui est dans la Drôme, avec beaucoup de paix. Tout de suite, au nom de Valence, me sont venus en tête les paysages de la Drôme que je connais pour y avoir fait du vélo, être venu en vacances avec des amis. Quelques visages aussi de prêtres ou de personnes que je connais ici dans la Drôme. Donc je l'ai vu plutôt dans une continuité, même si c'est un gros changement quand même de vie, mais dans une continuité du oui que j'avais déjà donné quand je suis devenu prêtre. Donc après avoir échangé, j'ai dit oui. Et évidemment, je dois répondre au pape. Voilà, c'est au pape que je dois exprimer mon consentement, mon oui, puis aussi mon obéissance filiale et puis ma communion avec lui. Donc je lui ai écrit, enfin, c'est ce qui se fait, c'est normal.
Mais vous choisissez le jour.
Voilà, j'ai choisi le jour. J'ai choisi le jour de Noël puisque c'était le 50e anniversaire de mon baptême. Voilà, et c'est vrai que pour moi, le baptême, c'est quand même ce qui est premier dans la vie d'un chrétien. C'est le jour le plus important. C'est ce que je dis souvent aux parents qui font baptiser leur enfant. Et en plus, ce prénom de François, qui, je pense, parle au pape. Donc, ça m'a permis de lui écrire quelques éléments qui me tiennent à cœur à ce propos.
À ce moment-là, vous en parlez pas. C'est un peu comme votre vœu de prêtre où vous gardez pour vous pendant des...
Oui, c'est ce qu'on appelle le secret pontifical. C'est-à-dire on ne peut pas en parler jusqu'au moment où il y a la nomination officielle.
5 janvier pour la nomination officielle et ordonnée le 10 mars 2024.
C'est ça.
Vous êtes venu avec un deuxième chant.
Oui, c'est une hymne liturgique qu'on retrouve dans le film « Des hommes et des dieux ». Voilà. Voici la nuit, l'immense nuit des origines. Pour moi, c'est important parce que ça nous resitue dans le mystère de la Pâque de Jésus, de sa mort et sa résurrection. Et ce film que j'ai beaucoup apprécié, des moines de Tibérine, dont plusieurs étaient originaires de l'abbaye d'Aigbel, où j'avais fait ma retraite avant d'être ordonné prêtre.
Donc dans la Drôme.
Ouais. Dans la Drôme, l'abbaye d'Aigbel dans la Drôme. Voilà, plusieurs qui ont, par fidélité à ce peuple, à leur engagement, à leur vie déjà donnée, justement au jour de leur consécration dans la vie monastique, sont allés jusqu'au bout et sont morts en martyr de l'amour, vraiment. Il n'y a pas de vie belle si elle n'est pas donnée.
Voici la ce lieu d'espoir en ruine.
La foi se raconte dans Témoins.
Toujours dans notre émission sur RCF, en compagnie de Mgr François Durand, 93e évêque du diocèse de Valence, ordonné le 10 mars 2024. Dans cette troisième partie, puisqu'on a fait connaissance avec son parcours, avec sa famille, ingénieur, et puis au bout de 22 ans de prêtre, il a passé plus de 10 ans en étant vicaire général, choisi au mois de décembre, quelques jours après son 50e anniversaire. Il a accepté, écrit une lettre le jour de son 50e anniversaire de baptême, le 25 décembre, au pape François, qui porte le même prénom que lui. Et nous voici dans cette troisième partie. La devise, vous l'avez déjà annoncé, qu'il soit un pour que le monde y croit.
Oui, qu'il soit un pour que le monde croit. J'ai raccourci, en fait, j'ai tronqué un peu la phrase qui est une prière de Jésus dans l'évangile de Jean. En fait, c'est que tous soient un, donc tous soit un pour que le monde croit. La prière de Jésus est en deux temps. Il prie Dieu le Père pour ses disciples, pour ceux qui l'ont suivi, qui l'ont connu du coup à travers lui le Fils de Dieu. Et puis il prie aussi pour tous ceux qui, grâce à eux, grâce à leurs paroles, grâce à leurs témoignages, eux aussi croiront en Dieu et entreront dans cette connaissance d'amour. L'évêque n'est pas que l'évêque des catholiques de la Drôme, et l'évêque pour la population de la Drôme. Pour moi, ça c'est extrêmement important, parce que chaque personne est unique aux yeux de Dieu et compte. Les personnes les plus simples sont branchées, sont comme en direct avec Dieu. Alors ça ne veut pas dire que elles sont parfaites, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pénibles, ça ne veut pas dire qu'elles ne nous dérangent pas, ne nous gênent pas. Mais il y a une simplicité. Et j'ai toujours eu des liens avec des personnes, qui faisaient la manche, ou qui étaient à la rue, ou qui ont eu beaucoup de galères. Je ne les rencontrais pas pour les aider. Je les rencontrais pour les rencontrer. Les écouter, partager quelque chose avec eux. Je me rappelle très bien un monsieur, Roland, qui faisait la manche. Il est décédé depuis, devant l'église. Et c'est lui qui, après, m'invitait chez lui, qui me donnait des offrandes de messe à célébrer. Donc voilà, c'était plutôt cette relation, cette dignité humaine qui nous était commune, simplement. J'ai vraiment des amis, j'ai des personnes très simples qui prient beaucoup pour moi. Je les remercie. Et c'est extrêmement, extrêmement fort. J'aime beaucoup cette prière de Jésus. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. C'est pas dans les études qu'on comprend pleinement le mystère de Dieu. C'est dans la rencontre des plus pauvres. Et j'aime beaucoup aussi cette phrase du Père Joseph Rezinski, les pauvres sont l'Église.
Les jeunes aussi, puisque ça a été finalement votre premier job en tant que prêtre. Vous étiez auprès des jeunes. Pourquoi c'est important pour vous, la jeunesse ?
Ça a été mon premier job. Et puis aussi, quand j'étais adolescent ou jeune, étudiant ou jeune adulte, il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans les églises. On était déjà dans une situation où on était assez minoritaire, très minoritaire. Le pape l'a dit d'ailleurs, suite au synode sur les jeunes. Les jeunes sont l'Église d'aujourd'hui, parce que ce que je supportais pas quand j'étais adolescent ou jeune étudiant, c'est qu'on nous dise « vous êtes l'Église de demain ». Mais je dis « ben non, on est déjà l'Église d'aujourd'hui, on est déjà là, on fait déjà partie de l'Église ». Et j'insiste beaucoup pour les jeunes qui sont confirmés, pour qu'ils ne tardent pas à vraiment prendre des responsabilités dans l'Église, des talents, des dons, et qui doivent s'exprimer au service des autres. Ça, c'est la meilleure manière pour réussir sa vie. Si on les garde cachés, enfouis au fond du placard, c'est trop dommage. Voilà. On passe un peu à côté de ce pourquoi en effet, et on risque de perdre la vraie joie du sens de sa vie.
L'écuménisme aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez dit tout à l'heure, je suis l'évêque de toute la Drôme, donc également des autres chrétiens. En tout cas, vous êtes lié aux autres chrétiens, et je crois que vous y tenez.
Oui, le dialogue œcuménique, c'est important. D'abord, déjà dans la relation fraternelle, dans les projets que nous pouvons avoir en commun, pour partager la parole de Dieu, pour être au service des plus pauvres. Étonnamment, j'ai été amené à accompagner spirituellement ces dernières années une dame protestante, une dame aussi orthodoxe, et tout en insistant sur le fait que c'était important qu'elles continuent dans leur confession chrétienne. J'étais pas là pour qu'elles deviennent catholiques, mais voilà, il se trouvait qu'elles elles se sont adressées à moi. Dans la Drôme, il y a aussi beaucoup d'Arméniens, d'évangéliques. J'ai pas choisi d'abord la devise qu'il soit un pour que le monde croie uniquement par rapport à l'œcuménisme, même si évidemment
ça peut marcher,
ça a compté et c'est important. Et c'est vrai que c'est cette unité, comme le Seigneur la veut, mais à laquelle nous devons toujours être ouverts et que nous devons rechercher de tout notre être, de toutes nos forces. C'est extrêmement important pour le témoignage justement de la foi chrétienne pour le monde d'aujourd'hui.
Si vous n'aviez pas été prêtre ou évêque, vous auriez voulu faire quoi ?
Sans doute, j'aurais poursuivi dans la recherche scientifique. J'aurais sûrement, si je n'étais pas devenu prêtre, fondé une famille.
On pourra faire une émission Science et foi, peut-être.
Pourquoi pas.
Un de ces jours. Hein.
Volontiers.
Des passions, du sport à côté ?
Alors, je ne suis pas du tout sportif, même si j'ai fait un peu de vélo, de volley aussi, mais c'est vraiment plutôt de la détente. Voilà, là, ce qui me plaît plus, c'est de marcher, oui, des randonnées, découvrir des beaux paysages. Après, j'aime beaucoup lire, hein, j'ai déjà dit. Hein.
Si vous aviez un livre à conseiller qui vous a beaucoup marqué ?
Oula.
Difficile. La maison prend feu, la bibliothèque, vous en sauvez qu'un, c'est lequel ? Alors, en dehors de la Bible.
La Bible, ouais. Voilà, mais Sagesse d'un pauvre, d'Éloi Leclerc, là, sur Saint-François d'Assise, oui. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu, relu et donné à d'autres.
Sagesse d'un pauvre.
Sagesse d'un pauvre.
Pour terminer cette émission, une petite dernière question. Qu'est-ce qui fait que tous les matins, vous allez vous lever avec la même pêche, même si l'agenda est chargé et c'est pas parti pour s'arranger ? Quand on est prêtre et encore plus évêque, eh ben, il faut y aller. Qu'est-ce qui fait que vous allez y aller ?
Enfin, si vous connaissez cette histoire que raconte Timothy Radcliffe, une dame son fils ne veut pas se lever le matin, et alors elle lui dit « Allez, allez, il faut que tu te lèves. » Alors il dit « Non, non, mais j'ai sommeil, je suis fatigué. »« Si, il faut que tu te lèves. » Elle lui dit « Donne-moi deux bonnes raisons pour me lever. » Alors elle lui répond « Ben, tu dois célébrer la messe et tu es l'évêque du diocèse. » Alors bon, voilà, blague à part, ben c'est le matin, c'est d'abord Dieu, voilà, premier servi. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des fois des journées qui s'annoncent un peu lourdes, un peu difficiles. De pouvoir prier, lui confier cette journée, lui demander de passer devant, de conduire. Ce qui me booste surtout, c'est de savoir que je vais rencontrer, découvrir.
Monseigneur François Durand, 93e évêque du diocèse de Valence, merci beaucoup d'être
merci
venu
vous.
À ce micro.
Merci Jean-Marie.
À bientôt. Au revoir.